Chapitre 5. Le lendemain, ces trois existences, si diversement et si réellement misérables, celle d'une mère au désespoir, celle du ménage Marneffe et celle du pauvre exilé, devaient toutes être affectées par la passion naïve d'Hortense et par le singulier dénouement que le baron allait trouver à sa passion malheureuse pour Josepha. Au moment d'entrer à l'opéra, le conseiller d'État fut arrêté par l'aspect un peu sombre du temple de la rue Lepelletier, où il ne vit ni gendarmes, ni lumière, ni gens de service, ni barrières pour contenir la foule. Il regarda l'affiche, y vit une bande blanche au milieu de laquelle brillait ce mot sacramentel, « relâche par indisposition ». Aussitôt il s'élança chez Josepha, qui demeurait dans les environs comme tous les artistes attachés à l'opéra, rue Chauchat. « Monsieur, que demandez-vous ? » lui dit le portier à son grand étonnement. « Vous ne me connaissez donc plus ? » répondit le baron avec inquiétude. « Au contraire, monsieur, c'est parce que j'ai l'honneur de remettre monsieur que je lui dis « Où allez-vous ?» Un frisson mortel glaça le baron. « Qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il. « Si monsieur le baron entrait dans l'appartement de mademoiselle Mira, il y trouverait mademoiselle Héloïse Brisetout, monsieur Bixiou, monsieur Léon de Laura, monsieur Lousteau, monsieur de Vernisset, monsieur Steedman et des femmes pleines de patchouli qui pendent la crémaillère. Eh bien, où donc est mademoiselle Mira? Je ne sais pas trop si je fais bien de vous le dire. » Le baron glissa 2 pièces de 100 sous dans la main du portier. Eh bien, elle reste maintenant rue de la Ville-l'Évêque, dans un hôtel que lui a donné, dit-on, le duc d'Hérouville, répondit à voix basse le portier. Après avoir demandé le numéro de cet hôtel, le baron prit un milord et arriva devant une de ces jolies maisons modernes à double porte, où, dès la lanterne de gaz, le luxe se manifeste. Le baron, vêtu de son habit de drap bleu, à cravate blanche, gilet blanc, pantalon de nankin, bottes vernies, beaucoup d'empois dans le jabot, passa pour un invité retardataire aux yeux du portier de ce nouvel Éden. Sa prestance, sa manière de marcher, tout en lui justifiait cette opinion. Au coup de cloche sonné par le portier, un valet parut au péristyle. Ce valet, nouveau comme l'hôtel, laissa pénétrer le baron, qui lui dit d'un ton de voix accompagné d'un geste impérial, « Fais passer cette carte à mademoiselle Josepha. » Le patito regarda machinalement la pièce où il se trouvait et se vit dans un salon d'attente, plein de fleurs rares, dont l'ameublement devait coûter 4 000 écus de 100 sous. Le valet, revenu, pria monsieur d'entrer au salon en attendant qu'on sortît de table pour prendre le café. Quoique le baron eût connu le luxe de l'Empire, qui certes fut un des plus prodigieux, et dont les créations, si elles ne furent pas durables, n'en coûtèrent pas moins des sommes folles, il resta comme ébloui, abasourdi, dans ce salon dont les 3 fenêtres donnaient sur un jardin féerique, un de ces jardins fabriqués en un mois avec des terrains rapportés, avec des fleurs transplantées, et dont les gazons semblent obtenus par des procédés chimiques. Il admira non seulement les recherches, les dorures, les sculptures les plus coûteuses du style dit Pompadour, des étoffes merveilleuses que le premier épicier venu aurait pu commander et obtenir à flot d'or, mais encore ce que des princes seuls ont la faculté de choisir, de trouver, de payer et d'offrir, 2 tableaux de Greuze et 2 de Watteau, 2 têtes de Van Dyck, 2 paysages de Ruisdael, 2 du Guaspre, 1 Rembrandt et 1 Holbein, 1 Murillo et 1 Titien, 2 Teniers et 2 Metsus, 1 Van Huysum et 1 Abraham Mignon, enfin 200 000 francs de tableaux admirablement encadrés. Les bordures valaient presque les toiles. « Ah, tu comprends maintenant, mon bonhomme !» dit Josepha. Venue sur la pointe du pied par une porte muette, sur des tapis de Perse, elle saisit son adorateur dans une de ces stupéfactions où les oreilles tintent si bien qu'on n'entend rien que le glas du désastre. Ce mot de « bonhomme » dit à ce personnage si haut placé dans l'administration et qui peint admirablement l'audace avec laquelle ces créatures ravalent les plus grandes existences, laissa le baron cloué par les pieds. Josepha, toute en blanc et jaune, était si bien parée pour cette fête qu'elle pouvait encore briller au milieu de ce luxe insensé comme le bijou le plus rare. « N'est-ce pas que c'est beau ? » reprit-elle. « Le duc a mis là tous les bénéfices d'une affaire en commandite dont les actions ont été vendues en hausse. Pas bête, mon petit duc !»« Il n'y a que les grands seigneurs d'autrefois pour savoir changer du charbon de terre en or. Le notaire, avant le dîner, m'a apporté le contrat d'acquisition à signer et qui contient quittance du prix. Comme ils sont là tous grands seigneurs, d'Estrignon, Rastignac, Maxime, Le Noncourt, Verneuil, Laginski, Rochefide, La Palférine, et en fait de banquiers, Nucingen et Dutillet, avec Antonia, Malaga, Carabine et La Schons, ils ont tous compati à ton malheur. Oui, mon vieux, tu es invité, mais à la condition de boire tout de suite la valeur de 2 bouteilles en vin de Hongrie, de Champagne et du Cap, pour te mettre à leur niveau. Nous sommes, mon cher, tous trop tendus ici pour qu'il n'y ait pas relâche à l'opéra. Mon directeur est saoul comme un cornet à piston. Il en est au couac. « Oh, Josepha !» s'écria le baron. « Comme c'est bête, une explication, » répondit-elle en souriant. « Voyons, vaux-tu les 600 000 francs que coûtent l'hôtel et le mobilier ? Peux-tu m'apporter une inscription de 30 000 francs de rente que le duc m'a donné dans un cornet de papier blanc à dragées d'épicier. C'est là une jolie idée. Quelle perversité ! Dit le conseiller d'État, qui dans ce moment de rage aurait troqué les diamants de sa femme pour remplacer le duc d'Hérouville pendant 24 heures. C'est mon état d'être perverse, répliqua-t-elle. Ah, voilà comment tu prends la chose. Pourquoi n'as-tu pas inventé de commandite ? Mon Dieu, mon pauvre châtain, tu devrais me remercier. Je te quitte au moment où tu pourrais manger avec moi l'avenir de ta femme, la dot de ta fille et... Ah, tu pleures, l'Empire s'en va, je vais saluer l'Empire. » Elle se posa tragiquement et dit « On vous appelle Hulot, je ne vous connais plus. » Et elle rentra. La porte entr'ouverte laissa passer, comme un éclair, un jet de lumière accompagné d'un éclat du crescendo de l'orgie et chargé des odeurs d'un festin du premier ordre. La cantatrice revint voir par la porte entrebâillée et trouvant Hulot planté sur ses pieds comme s'il eût été de bronze, elle fit un pas en avant et reparut. « Monsieur, dit-elle, j'ai cédé les guenilles de la rue Chauchat à la petite Héloïse Brisetout de Bixiou. Si vous voulez y réclamer votre bonnet de coton, votre tire-botte, votre ceinture et votre cire à favoris, j'ai stipulé qu'on vous les rendrait. » Cette horrible raillerie eut pour effet de faire sortir le baron comme Lot dut sortir de Gomorre, mais sans se retourner comme madame. Hulot revint chez lui, marchant en furieux, se parlant à lui-même, et trouva sa famille faisant avec calme le whist à deux sous l'affiche qu'il avait vue commencer. En voyant son mari, la pauvre Adeline crut à quelque affreux désastre, à un déshonneur. Elle donna ses cartes à Hortense et entraîna Hector dans ce même petit salon où, 5 heures auparavant, Crevel lui prédisait les plus honteuses agonies de la misère. « Qu'as-tu ? » dit-elle, effrayée. « Oh, pardonne-moi, mais laisse-moi te raconter ces infamies. » Il exhala sa rage pendant 10 minutes. « Mais mon ami, répondit héroïquement cette pauvre femme, de pareilles créatures ne connaissent pas l'amour, cet amour pur et dévoué que tu mérites. Comment pourrais-tu, toi, si perspicace, avoir la prétention de lutter avec 1 million ? Chère Adeline, s'écria le baron en saisissant sa femme et la pressant sur son cœur. La baronne venait de jeter du baume sur les plaies saignantes de l'amour-propre. Certes, ôter la fortune au duc d'Hérouville, entre nous deux, elle n'hésiterait pas, dit le baron. Mon ami, reprit Adeline en faisant un dernier effort. « S'il te faut absolument des maîtresses, pourquoi ne prends-tu pas, comme Crevel, des femmes qui ne soient pas chères, et dans une classe à se trouver longtemps heureuse de peu? Nous y gagnerons tous. Je conçois le besoin, mais je ne comprends rien à la vanité. » « Oh, quelle bonne et excellente femme tu es !» s'écria-t-il. « Je suis un vieux fou. Je ne mérite pas d'avoir un ange comme toi pour compagne. » « Je suis tout bonnement la Joséphine de mon Napoléon, » répondit-elle avec une teinte de mélancolie. « Joséphine ne te valait pas, » dit-il. « Viens, je vais jouer le whist avec mon frère et mes enfants. Il faut que je me mette à mon métier de père de famille, que je marie mon Hortense et que j'enterre le libertin. » Cette bonhomie toucha si fort la pauvre Adeline qu'elle dit « Cette créature a bien mauvais goût de préférer qui que ce soit à mon Hector. Ah, je ne te céderai pas pour tout l'or de la terre. Comment peut-on te laisser quand on a le bonheur d'être aimé par toi ?» Le regard par lequel le baron récompensa le fanatisme de sa femme la confirma dans l'opinion que la douceur et la soumission étaient les plus puissantes armes de la femme. Elle se trompait en ceci. Les sentiments nobles poussés à l'absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus grands vices. Bonaparte est devenu l'empereur pour avoir mitraillé le peuple à 2 ans de l'endroit où Louis XVI a perdu la monarchie et la tête pour n'avoir pas laissé verser le sang d'un monsieur Sosse. Le lendemain, Hortense, qui mit le bracelet de Venceslas sous son oreiller pour ne pas s'en séparer pendant son sommeil, fut habillée de bonne heure et fit prier son père de venir au jardin des Tuileries dès qu'il serait levé. Vers 9h30, le père, condescendant à une demande de sa fille, lui donnait le bras et ils allaient ensemble le long des quais, par le pont royal, sur la place du Carrousel. « Ayons l'air de flâner, papa !» dit Hortense en débouchant par le guichet pour traverser cette immense place. « Flâner ici ?» demanda railleusement le père. « Nous sommes censés aller au musée. Et là-bas, » dit-elle en montrant les baraques adossées aux murailles des maisons qui tombent à angle droit sur la rue du Doyenné, « tiens, il y a des marchands de bric-à-brac, de tableaux. Ta cousine demeure là. Je le sais bien, mais il ne faut pas qu'elle nous voie. Et que veux-tu faire ?» dit le baron en se trouvant à 30 pas environ des fenêtres de Madame de Marneff, à laquelle il pensa soudain. Hortense avait conduit son père devant le vitrage d'une des boutiques situées à l'angle du pâté de maison qui longe les galeries du Vieux Louvre et qui fait face à l'hôtel de Nantes. Elle entra dans cette boutique en laissant son père occupé à regarder les fenêtres de la jolie petite dame qui, la veille, avait laissé son image au cœur du vieux beau comme pour y calmer la blessure qu'il allait recevoir. Et il ne put s'empêcher de mettre en pratique le conseil de sa femme. « Rabattons-nous sur les petites bourgeoises, » se dit-il en se rappelant les adorables perfections de Madame Marneff. « Cette petite femme-là me fera promptement oublier la vie de Josépha. » Or, voici ce qui se passa simultanément dans la boutique et hors de la boutique. En examinant les fenêtres de sa nouvelle belle, le baron aperçut le mari, qui, tout en brossant sa redingote lui-même, faisait évidemment le guet et semblait attendre quelqu'un sur la place. Craignant d'être aperçu, puis reconnu plus tard, l'amoureux baron tourna le dos à la rue du Doyenné, mais en se mettant de 3/4, afin de pouvoir y donner un coup d'œil de temps en temps. Ce mouvement le fit rencontrer presque face à face avec Madame Marneff, qui, venant des quais, doublait le promontoire des maisons pour retourner chez elle. Valérie éprouva comme une commotion en recevant le regard étonné du baron, et elle y répondit par une œillade de prude. « Jolie femme !» s'écria le baron, « et pour qui l'on ferait bien des folies ?»« Eh, monsieur !» répondit-elle en se retournant comme une femme qui prend un parti violent. « Vous êtes monsieur le baron Hulot, n'est-ce pas ?» Le baron, de plus en plus stupéfait, fit un geste d'affirmation. « Eh bien, puisque le hasard a marié 2 fois nos yeux, et que j'ai le bonheur de vous voir intrigué ou intéressé, je vous dirai qu'au lieu de faire des folies, vous devriez bien faire justice. Le sort de mon mari dépend de vous. » « Comment l'entendez-vous ? » demanda galamment le baron. « C'est un employé de votre direction, à la guerre, division de M. Lebrun, bureau de M. Coquet, » répondit-elle en souriant. « Je me sens disposée, madame... Madame ? Madame Marneff. » « Ma petite madame Marneff a faire des injustices pour vos beaux yeux. J'ai dans votre maison une cousine, et j'irai la voir un de ces jours, le plus tôt possible. Venez m'y présenter votre requête. » « Excusez mon audace, monsieur le baron, mais vous comprendrez comment j'ai pu oser parler ainsi. Je suis sans protection. »
« Ah ah !
Oh, monsieur, vous vous méprenez !» dit-elle en baissant les yeux. Le baron crut que le soleil venait de disparaître. « Je suis au désespoir, mais je suis une honnête femme, » reprit-elle. « J'ai perdu, il y a 6 mois, mon seul protecteur, le maréchal Montcornet. »
« Ah, vous êtes sa fille !»«
Oui, monsieur, mais il ne m'a jamais reconnue. »
« Afin de pouvoir vous laisser une partie de sa fortune. » »«
Il ne m'a rien laissé, monsieur, car on n'a pas trouvé de testament. »
« Oh, pauvre petite, le maréchal a été surpris par l'apoplexie. Allons, espérez, madame, on doit quelque chose à la fille d'un des chevaliers bayards de l'Empire. »
Madame Marneff salua gracieusement et fut aussi fière de son succès que le baron l'était du sien. « D'où diable vient-elle si matin ? » se demanda-t-il en analysant le mouvement onduleux de la robe auquel elle imprimait une grâce peut-être exagérée.
« Elle a la figure trop fatiguée pour revenir du bain, et son mari l'attend. C'est inexplicable, et cela donne beaucoup à penser. »
Madame Marneff, une fois rentrée, le baron voulut savoir ce que faisait sa fille dans la boutique. En y entrant, comme il regardait toujours les fenêtres de Madame Marneff, il faillit heurter un jeune homme au front pâle, aux yeux gris pétillants, vêtu d'un paletot d'été en mérinos noir, d'un pantalon de gros coutil et de souliers à guêtres en cuir jaune, qui sortait comme un braque. Et il le vit courir vers la maison de Madame Marneff, où il entra. En glissant dans la boutique, Hortense y avait distingué tout aussitôt le fameux groupe mis en évidence sur une table placée au centre dans le champ de la porte. Sans les circonstances auxquelles elle en devait la connaissance, ce chef-d'œuvre eût vraisemblablement frappé la jeune fille par ce qu'il faut appeler le brio des grandes choses, elle qui, certes, aurait pu poser en Italie pour la statue du brio. Toutes les œuvres des gens de génie n'ont pas au même degré ce brillant, cette splendeur visible, à tous les yeux, même à ceux des ignorants. Ainsi, certains tableaux de Raphaël, tels que la célèbre Transfiguration, la Madone de Foligno, les fresques de Stans au Vatican, ne commanderont pas soudain l'admiration, comme le joueur de violon de la Galerie Chiara, les portraits des Doni et la vision d'Ézéchiel de la Galerie de Pitti, le portement de croix de la Galerie Borghese, le mariage de la Vierge du musée Brera à Milan, le Saint Jean-Baptiste de la Tribune, Saint Luc peignant la Vierge à l'Académie de Rome, n'ont pas le charme du portrait de Léon X et de la Vierge de Dresde. Néanmoins, tout est de la même valeur. Il y a plus. Le Stans, la Transfiguration, les Camailleux et les trois tableaux de chevalet du Vatican sont le dernier degré du sublime et de la perfection. Mais ces chefs-d'œuvre exigent de l'admirateur le plus instruit une sorte de tension, une étude, pour être compris dans toutes leurs parties, tandis que le violoniste, le mariage de la Vierge, la vision d'Ézéchiel, entrent d'eux-mêmes dans votre cœur par la double porte des yeux et s'y font leur place. Vous aimez à les recevoir ainsi, sans aucune peine. Ce n'est pas le comble de l'art, c'en est le bonheur. Ce fait prouve qu'il se rencontre dans la génération des œuvres artistiques les mêmes hasards de naissance que dans les familles où il y a des enfants heureusement doués, qui deviennent beaux et sans faire de mal à leur mère, à qui tout sourit, à qui tout réussit. Il y a enfin les fleurs du génie comme les fleurs de l'amour. Ce brio, mot italien intraduisible, et que nous commençons à employer, est le caractère des premières œuvres.
C'est le fruit de la pétulance et de la fougue intrépide du talent jeune, pétulance qui se retrouve plus tard dans certaines heures heureuses. Mais ce brio ne sort plus alors du cœur de l'artiste, et au lieu de le jeter dans ses œuvres comme un volcan lance ses feux, il le subit. Il le doit à des circonstances, à l'amour, à la rivalité, souvent à la haine, et plus encore au commandement d'une gloire à soutenir. Le groupe de Venceslas était à ses œuvres à venir ce qu'est le mariage de la Vierge à l'œuvre totale de Raphaël. Le premier pas du talent fait dans une grâce inimitable, avec l'entrain de l'enfance et son aimable plénitude, avec sa force cachée sous des chairs roses et blanches, trouées par des fossettes qui font comme des échos au rire de la mer. Le prince Eugène a, dit-on, payé 400 000 francs ce tableau, qui vaudrait 1 000 000 pour un pays privé de tableaux de Raphaël, et l'on ne donnerait pas cette somme pour la plus belle des fresques, dont cependant la valeur est bien supérieure comme art. Hortense contint son admiration en pensant à la somme de ses économies de jeune fille. Elle prit un petit air indifférent et dit au marchand « Quel est le prix de ça ?»« 1 500 francs, répondit le marchand en jetant une œillade à un jeune homme assis sur un tabouret dans un coin. Ce jeune homme devint stupide en voyant le vivant chef-d'œuvre du baron Hulot. Hortense, ainsi prévenue, reconnut alors l'artiste à la rougeur qui nuança son visage pâli par la souffrance. Elle vit reluire dans deux yeux gris une étincelle allumée par sa question. Elle regarda cette figure maigre, étirée comme celle d'un moine plongé dans l'ascétisme. Elle adora cette bouche rose et bien dessinée, un petit menton fin et les cheveux châtains à filaments soyeux du slave. « Si c'était 1 200 francs, répondit-elle, je vous dirai de me l'envoyer. C'est antique, mademoiselle, fit observer le marchand, qui, semblable à tous ses confrères, croyait avoir tout dit avec ce nec plus ultra du bric-à-brac. Excusez-moi, monsieur, c'est fait de cette année, répondit-elle tout doucement, et je viens précisément pour vous prier, si l'on consent à ce prix, de nous envoyer l'artiste, car on pourrait lui procurer des commandes assez importantes. Si les 1 200 francs sont pour lui, qu'aurais-je pour moi ? « Je suis marchand, » dit le boutiquier avec bonhomie. « Ah, c'est vrai, » répliqua la jeune fille en laissant échapper une expression de dédain. « Ah, mademoiselle, prenez, je m'entendrai avec le marchand, » s'écria le Livonien hors de lui. Fasciné par la sublime beauté d'Hortense et par l'amour pour les arts qui se manifestaient en elle, il ajouta « Je suis l'auteur de ce groupe. Voici 10 jours que je viens voir 3 fois par jour si quelqu'un en connaîtra la valeur et le marchandera. Vous êtes ma première admiratrice. Prenez. Venez, monsieur, avec le marchand dans 1 heure d'ici. Voici la carte de mon père, répondit Hortense. Puis, en voyant le marchand aller dans une pièce pour y envelopper le groupe dans du linge, elle ajouta tout bas, au grand étonnement de l'artiste qui crut rêver, « Dans l'intérêt de votre avenir, monsieur Venceslas, ne montrez pas cette carte. Ne dites pas le nom de votre acquéreur à mademoiselle Fischer, car c'est notre cousine. » Ce mot, notre cousine, produisit un éblouissement à l'artiste. Il entrevit le paradis en voyant une des Ève tomber. Il rêvait de la belle cousine dont lui avait parlé Lisbeth, autant qu'Hortense rêvait de l'amoureux de sa cousine, et quand elle était entrée. Ah, pensait-il, si elle pouvait être ainsi! On comprendra le regard que les deux amants échangèrent. Ce fut de la flamme, car les amoureux vertueux n'ont pas la moindre hypocrisie. « Eh bien, que diable fais-tu là-dedans ? » demanda le père à la fille. « J'ai dépensé mes 1 200 francs d'économie, viens. » Elle reprit le bras de son père qui répéta « 1 200 francs ? 1 300 même, mais tu me prêteras bien la différence. » « Et à quoi, dans cette boutique, as-tu pu dépenser cette somme ?»« Ah, voici !» répondit l'heureuse jeune fille. « Si j'ai trouvé un mari, ce ne sera pas cher. »«
Un mari, ma fille, dans cette boutique ?»«
Écoute, mon petit père, me défendrais-tu d'épouser un grand artiste ?»«
Non, mon enfant. Un grand artiste, aujourd'hui, c'est un prince qui n'est pas titré. C'est la gloire et la fortune, les deux plus grands avantages sociaux après la vertu, ajouta-t-il d'un petit ton cafard.
Bien entendu, répondit Hortense. Et que penses-tu de la sculpture?
C'est une bien mauvaise partie, dit Hulot en hochant la tête. Il faut de grandes protections, outre un grand talent, car le gouvernement est le seul consommateur. C'est un art sans débouché. Aujourd'hui qu'il n'y a plus ni grandes existences, ni grandes fortunes, ni palais substitués, ni majorats. Nous ne pouvons loger que de petits tableaux, de petites figures. Aussi les arts sont-ils menacés par le petit.
Mais un grand artiste qui trouverait des débouchés, reprit Hortense,
c'est la solution du problème.
Et qui serait appuyé?
Encore mieux.
Et noble?
Bah!
Comte!
Et il sculpte?
Il est sans fortune.
Et il compte sur celle de Mademoiselle Hortense Hulot, dit railleusement le baron en plongeant un regard d'inquisiteur dans les yeux de sa fille.
Ce grand artiste, comte, et qui sculpte, vient de voir votre fille pour la première fois de sa vie, et pendant 5 minutes, monsieur le baron, répondit Hortense d'un air calme à son père. Hier, vois-tu, mon cher bon petit père, pendant que tu étais à la chambre, maman s'est évanouie. Cet évanouissement qu'elle a mis sur le compte de ses nerfs venait de quelque chagrin relatif à mon mariage manqué, car elle m'a dit que, pour vous débarrasser de moi...
Elle t'aime trop pour avoir employé une expression...
peu parlementaire, reprit Hortense en riant. Non, elle ne s'est pas servie de ce mot-là. Mais moi, je sais qu'une fille à marier, qui ne se marie pas, est une croix très lourde à porter pour des parents honnêtes. Eh bien, elle pense que s'il se présentait un homme d'énergie et de talent, à qui une dot de 30 000 francs suffirait, nous serions tous heureux. Enfin, elle jugeait convenable de me préparer à la modestie de mon futur sort, et de m'empêcher de m'abandonner à de trop beaux rêves, ce qui signifiait la rupture de mon mariage, et pas de dot.
Ta mère est une bien bonne, une bien noble et excellente femme, répondit le père profondément humilié, quoique assez heureux de cette confidence.
Hier, elle m'a dit que vous l'autorisiez à vendre ses diamants pour me marier, mais je voulais qu'elle gardât ses diamants, et je voulais trouver un mari. Je crois avoir trouvé l'homme, le prétendu qui répond au programme de maman.
Là, sur la place du Carrousel, en une matinée.
Oh, papa, le mal vient de plus loin, répondit-elle malicieusement.
Eh bien, voyons, ma petite fille, disons tout à notre bon père, demanda-t-il d'un air câlin en cachant ses inquiétudes.
Sous la promesse d'un secret absolu, Hortense raconta le résumé de ses conversations avec la cousine Bette. Puis, en entrant, elle montra le fameux cachet à son père comme preuve de la sagacité de ses conjectures. Le père admira, dans son fort intérieur, la profonde adresse des jeunes filles agitées par l'instinct, en reconnaissant la simplicité du plan que cet amour idéal avait suggéré, dans une seule nuit, à cette innocente fille.
« Tu vas voir le chef-d'œuvre que je viens d'acheter. On va l'apporter, et le cher Venceslas accompagnera le marchand. L'auteur d'un pareil groupe doit faire fortune, mais obtiens-lui par ton crédit une statue et puis un logement à l'institut. »
« Comme tu vas !» s'écria le père. « Mais si on vous laissait faire, vous seriez mariés dans les délais légaux, dans 11 jours. »«
On attend 11 jours, » répondit-elle en riant. « Mais en 5 minutes, je l'ai aimé, comme tu as aimé maman en la voyant. Et il m'aime, comme si nous nous connaissions depuis 2 ans. »« Oui, » dit-elle à un geste que fit son père, « j'ai lu 10 volumes d'amour dans ses yeux. Et ne sera-t-il pas accepté par vous et par maman pour mon mari, quand il vous sera démontré que c'est un homme de génie ? La sculpture est le premier des arts » s'écria-t-elle en battant des mains et sautant. « Tiens, je vais tout te dire. »«
Il y a donc encore quelque chose ?» demanda le père en souriant.
Cette innocence complète et bavarde avait tout à fait rassuré le baron.
« Un aveu de la dernière importance, » répondit-elle. « Je l'aimais sans le connaître, mais j'en suis folle depuis 1 heure que je l'ai vue. »
« Un peu trop folle, » répondit le baron que le spectacle de cette naïve passion réjouissait. Ne me punis pas de ma confiance, reprit-elle. C'est si bon de crier dans le cœur de son père. J'aime, je suis heureuse d'aimer, répliqua-t-elle. Tu vas voir mon Venceslas. Quel front plein de mélancolie, des yeux gris où brille le soleil du génie, et comme il est distingué. Qu'en penses-tu? Est-ce un beau pays, la Livonie? Ma cousine bête, épouser ce jeune homme-là, elle qui serait sa mère, mais ce serait un meurtre, comme je suis jalouse de ce qu'elle a dû faire pour lui. Je me figure qu'elle ne verra pas mon mariage avec plaisir. Tiens, mon ange, ne cachons rien à ta mère, dit le baron. Il faudrait lui montrer ce cachet, et j'ai promis de ne pas trahir la cousine, qui a, dit-elle, peur des plaisanteries de maman, répondit Hortense. Tu as de la délicatesse pour le cacher, et tu voles à la cousine son amoureux. J'ai fait une promesse pour le cacher, et je n'ai rien promis pour l'auteur. Cette aventure, d'une simplicité patriarcale, convenait singulièrement à la situation secrète de cette famille. Aussi le baron, en louant sa fille de sa confiance, lui dit-il que désormais elle devait s'en remettre à la prudence de ses parents. Tu comprends, ma petite fille, que ce n'est pas à toi à t'assurer si l'amoureux de ta cousine est comte, s'il a des papiers en règle et si sa conduite offre des garanties. Quant à ta cousine, elle a refusé 5 parties quand elle avait 20 ans de moins. Ce ne sera pas un obstacle, et je m'en charge.
Écoutez, mon père, si vous voulez me voir mariée, ne parlez à ma cousine de notre amoureux qu'au moment de signer mon contrat de mariage. Depuis 6 mois, je la questionne à ce sujet. Eh bien, il y a quelque chose d'inexplicable en elle.
Quoi ? Dit le père, intrigué.
Enfin, ses regards ne sont pas bons quand je vais trop loin, fût-ce en riant, à propos de son amoureux. Prenez vos renseignements, mais laissez-moi conduire ma barque. Ma confiance doit vous rassurer.
Le Seigneur a dit, « Laissez venir les enfants à moi. Tu es un de ceux qui reviennent, » répondit le baron avec une légère teinte de raillerie.
Après le déjeuner, on annonça le marchand, l'artiste et le groupe. La rougeur subite qui colora sa fille rendit la baronne d'abord inquiète, puis attentive, et la confusion d'Hortense, le feu de son regard, lui révélèrent bientôt le mystère, si peu contenu dans ce jeune cœur. Le comte Steinbock, habillé tout en noir, parut au baron être un jeune homme fort distingué.
« Feriez-vous une statue en bronze ? » lui demanda-t-il en tenant le groupe.
Après avoir admiré de confiance, il passa le bronze à sa femme qui ne se connaissait pas en sculpture.
« N'est-ce pas, maman, que c'est bien beau ? » dit Hortense à l'oreille de sa mère.
« Une statue, monsieur le baron, ce n'est pas si difficile à faire que d'agencer une pendule comme celle que voici et que monsieur a eu la complaisance d'apporter, » répondit l'artiste à la question du baron.
Le marchand était occupé à déposer sur le buffet de la salle à manger le modèle en cire des 12 heures que les amours essayent d'arrêter.
« Laissez-moi cette pendule, » dit le baron stupéfait de la beauté de cette œuvre. « Je veux la montrer au ministre de l'Intérieur et du Commerce. »«
Quel est ce jeune homme qui t'intéresse tant ?» demanda la baronne à sa fille.
« Un artiste assez riche pour exploiter ce modèle pourrait y gagner 100 000 francs, » dit le marchand de curiosité qui prit un air capable et mystérieux en voyant l'accord des yeux entre la jeune fille et l'artiste. « Il suffit de vendre 20 exemplaires à 8 000 francs, car chaque exemplaire coûterait environ 1 000 écus à établir. Mais en numérotant chaque exemplaire et détruisant le modèle, on trouverait bien 20 amateurs, satisfaits d'être les seuls à posséder cette œuvre-là. »«
100 000 francs !» s'écria Steinbock en regardant tour à tour le marchand, Hortense, le baron et la baronne.
« Oui, 100 000 francs !» répéta le marchand. « Et si j'étais assez riche, je vous l'achèterais, moi, 20 000 francs, car en détruisant le modèle, cela devient une propriété. Mais un des princes devrait payer ce chef-d'œuvre 30 000 ou 40 000 francs et en orner son salon. On n'a jamais fait dans les arts de pendule qui contente à la fois les bourgeois et les connaisseurs.
et celle-là, monsieur, est la solution de cette difficulté.
« Voici pour vous, monsieur, » dit Hortense en donnant 6 pièces d'or au marchand qui se retira.
« Ne parlez à personne au monde de cette visite, » alla dire l'artiste au marchand sur le seuil de la porte. « Si l'on vous demande où nous avons apporté le groupe, nommez le duc d'Hérouville, le célèbre amateur qui demeure rue de Varennes. » Le marchand hocha la tête en signe d'assentiment. « Vous vous nommez ?» demanda le baron à l'artiste quand il revint. « Le comte Steinbock. »«
Avez-vous des papiers qui prouvent ce que vous êtes ?»«
Oui, monsieur le baron, ils sont en langue russe et en langue allemande, mais sans légalisation. »
« Vous sentez-vous la force de faire une statue de 9 pieds ?»«
Oui, monsieur. »«
Eh bien, si les personnes que je vais consulter sont contentes de vos ouvrages, je puis vous obtenir la statue du maréchal Montcornet que l'on veut ériger au Père Lachaise sur son tombeau. Le ministre de la guerre et les anciens officiers de la garde impériale donnent une somme assez importante pour que nous ayons le droit de choisir l'artiste. »
« Oh, monsieur, ce serait ma fortune !» dit Steinbock, qui resta stupéfait de tant de bonheurs à la fois.
« Soyez tranquille, » répondit gracieusement le baron. « Si les 2 ministres, à qui je vais montrer votre groupe et ce modèle, sont émerveillés de ces 2 œuvres, votre fortune est en bon chemin. » Hortense serrait le bras de son père à lui faire mal. « Apportez-moi vos papiers et ne dites rien de vos espérances à personne, pas même à notre vieille cousine bête. »«
Lisbeth ? » s'écria Madame Hulot, achevant de comprendre la fin sans deviner les moyens.
« Je puis vous donner des preuves de mon savoir en faisant le buste de Madame, » ajouta Venceslas.
Frappé de la beauté de Madame Hulot, depuis un moment l'artiste comparait la mère et la fille.
« Allons, monsieur, la vie peut devenir belle pour vous, » dit le baron, tout à fait séduit par l'extérieur fin et distingué du comte Steinbock. « Vous saurez bientôt que personne, à Paris, n'a longtemps impunément du talent et que tout travail constant y trouve sa récompense. »
Hortense tendit au jeune homme, en rougissant, une jolie bourse algérienne qui contenait 60 pièces d'or. L'artiste, toujours un peu gentilhomme, répondit à la rougeur d'Hortense par un coloris de pudeur assez facile à interpréter. « Serait-ce, par hasard, le premier argent que vous recevez de vos travaux ?» demanda la baronne. « Oui, madame, de mes travaux d'art, mais non de mes peines, car j'ai travaillé comme ouvrier. »«
Eh bien, espérons que l'argent de ma fille vous portera bonheur, » répondit Madame Hulot.
« Et prenez-le sans scrupule !» ajouta le baron en voyant Venceslas qui tenait la bourse à la main sans la serrer. « Cette somme sera remboursée par quelque grand seigneur, par un prince peut-être, qui nous la rendra, certes, avec usure, pour posséder cette belle œuvre.
« Oh, j'y tiens trop, papa, pour la céder à qui que ce soit, même au prince royal.
Je puis faire pour mademoiselle notre groupe, plus joli que ce...
« Ce ne serait pas celui-là, » répondit-elle.
Et comme honteuse d'en avoir trop dit, elle alla dans le jardin. « Je vais donc briser le moule et le modèle en rentrant, » dit Steinbock.
« Allons, apportez-moi vos papiers et vous entendrez bientôt parler de moi, si vous répondez à tout ce que je conçois de vous, monsieur. »
En entendant cette phrase, l'artiste fut obligé de sortir. Après avoir salué Madame Hulot et Hortense, qui revint du jardin exprès pour recevoir ce salut, il alla se promener dans les Tuileries, sans pouvoir, sans oser rentrer dans sa mansarde, où son tyran allait l'assommer de questions et lui arracher son secret. L'amoureux d'Hortense imaginait des groupes et des statues par centaines. Il se sentait une puissance à tailler lui-même le marbre, comme Canova qui, faible comme lui, faillit en périr. Il était transfiguré par Hortense, devenue pour lui l'inspiration visible.
« Ah ça !» dit la baronne à sa fille, « qu'est-ce que cela signifie ?»«
Eh bien, chère maman, tu viens de voir l'amoureux de notre cousine bête, qui, j'espère, est maintenant le mien. Mais ferme les yeux, fais l'ignorante. Mon Dieu, moi qui voulais tout te cacher, je vais tout te dire. »
Allons, adieu, mes enfants !» s'écria le baron en embrassant sa fille et sa femme. « Je vais aller peut-être voir la chèvre, et je saurai d'elle bien des choses sur le jeune homme. »«
Papa, sois prudent !» répéta Hortense.
« Oh, petite fille !» s'écria la baronne quand Hortense eut fini de lui raconter son poème, dont le dernier chant était l'aventure de cette matinée. «
Chère petite fille, la plus grande rouée de la terre sera toujours la naïveté. »
Les passions vraies ont leur instinct. Mettez un gourmand à même de prendre un fruit dans un plat, il ne se trompera pas et saisira, même sans voir, le meilleur. De même, laissez aux jeunes filles bien élevées le choix absolu de leur mari, si elles sont en position d'avoir ce qu'elles désigneront, elles se tromperont rarement. La nature est infaillible. L'œuvre de la nature en ce genre s'appelle « aimer à première vue ». En amour, la première vue est tout bonnement la seconde vue. Le contentement de la baronne, quoique caché sous la dignité maternelle, égalait celui de sa fille. Car des trois manières de marier Hortense dont avait parlé Crevel, la meilleure, à son gré, paraissait devoir réussir. Elle vit dans cette aventure une réponse de la Providence à ses ferventes prières. Le forçat de Mademoiselle Fischer, obligé néanmoins de rentrer au logis, eut l'idée de cacher la joie de l'amoureux sous la joie de l'artiste, heureux de son premier succès. «
Victoire ! Mon groupe est vendu au duc d'Hérouville, qui va me donner des travaux !» dit-il en jetant les 1200 francs en or sur la table de la vieille fille.
Il avait, comme on le pense bien, serré la bourse d'Hortense. Il la tenait sur son cœur.
« Eh bien, répondit Lisbeth, c'est heureux, car je m'exterminais à travailler. Vous voyez, mon enfant, que l'argent vient bien lentement dans le métier que vous avez pris. Car voici le premier que vous recevez, et voilà bientôt 5 ans que vous piochez. Cette somme suffit à peine à rembourser ce que vous m'avez coûté depuis la lettre de change qui me tient lieu de mes économies. Mais soyez tranquille, ajouta-t-elle après avoir compté. Cet argent sera tout employé pour vous. Nous avons là de la sécurité pour 1 an. En 1 an, vous pouvez maintenant vous acquitter et avoir une bonne somme à vous, si vous allez toujours de ce train-là. »
En voyant le succès de sa ruse, Venceslas fit des comptes à la vieille fille sur le duc d'Hérouville.
« Je veux vous faire habiller tout en noir, à la mode, et renouveler votre linge, car vous devez vous présenter bien mis chez vos protecteurs. » répondit Bette. « Et puis, il vous faudra maintenant un appartement plus grand et plus convenable que votre horrible mansarde, et le bien meublé. Comme vous voilà gaie, vous n'êtes plus le même, » ajouta-t-elle en examinant Venceslas.
« Mais on a dit que mon groupe était un chef-d'œuvre.
« Eh bien, tant mieux, faites-en d'autres !» répliqua cette sèche fille, toute positive, et incapable de comprendre la joie du triomphe ou la beauté dans les arts.
Ne vous occupez plus de ce qui est vendu, fabriquez quelque autre chose à vendre. Vous avez dépensé 200 francs d'argent, sans compter votre travail et votre temps, à ce diable de Samson. Votre pendule vous coûtera plus de 2000 francs à faire exécuter. Tenez, si vous m'en croyez, vous devriez acheter ces 2 petits garçons couronnant la petite fille avec des bluets. Ça séduira les Parisiens. Moi, je vais aller chez M. Graff, le tailleur, avant d'aller chez M. Crevel. Remontez chez vous et laissez-moi m'habiller.